Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous voir, car je me suis dit avec la pluie qu'il y avait ce matin, je ne sais pas si elle est encore, est-ce qu'il y aura quelques-uns à l'église? Donc ça va très bien, ça prouve que vous aimez le Seigneur et sa parole. Je suis très content et vous serez récompensés. On va quitter ce lieu de la pluie et on ira vers le désert. Oui, il fait chaud et sec et agréable. Donc, je vous présente ce matin la première partie de mon message et la deuxième partie, ça serait à un autre jour. On va lire tout d'abord Exodus 13, s'il vous plaît. Exodus chapitre 13, versets 20 à 22. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je souligne ce mot, et l'Éternel allait devant eux pour les guider. Donc, trois mots surtout à retenir. L'Éternel devant guider. Pendant le jour, l'Éternel les guidait par une nuée. Il faut savoir qu'ils étaient aussi abrités sous l'ombre. Psaume 105, 39. Donc, ils n'étaient pas frappés par le soleil. Ils étaient vraiment abrités sous l'ombre. Et pendant la nuit, l'Éternel les guidait par une colonne de feu. Vous savez, déjà le feu, ça éclaire et ça fait en même temps aussi chauffage. Dans le désert, il peut faire très froid la nuit. Donc, on voit bien que l'Éternel était leur GPS ou tom-tom. 24 heures sur 24, c'est lui qui allait devant eux. Quel est le GPS d'aujourd'hui pour nous? Comment Dieu guide aujourd'hui? Tout d'abord, par la parole du Seigneur, la Bible. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, etc. Ça veut dire que Dieu parle à l'homme par la Bible aujourd'hui. Sans la parole du Seigneur, on est perdu, on est désorienté, on ne sait pas où on va. Ce vendredi-là, on était chez nos amis, on a eu notre cours biblique et notre ami nous a présenté une bouteille de vin et j'ai vu, il y avait écrit « plein de Dieu hein? ». Une bouteille, mais n'oubliez pas, on ne boit pas que du vin, on fait des études bibliques aussi. Hein? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Pourquoi je vis? À quoi ça sert? Où on peut trouver les instructions, le mode de vie pour nous? Dans la parole du Seigneur. Lisez et vous saurez. Quel est le plan pour un enfant de Dieu? Tout d'abord, 1 Pierre 2, verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Combien de fois un bébé, c'est surtout une question aux mères, combien de fois un bébé a faim dans la journée ou dans la nuit? Une fois? Plusieurs fois? Un bébé nouveau-né, il a toute la journée faim, même la nuit. Les mamans peuvent le confirmer. Donc, ça nous parle. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Est-ce que vous voulez aussi grandir, avancer dans votre vie? Lisez et buvez la Bible, la parole du Seigneur, le lait spirituel et pur. Ça, c'est une façon que Dieu nous guide tout d'abord par la parole. Une deuxième possibilité, c'est par le Saint-Esprit. À l'époque, quand j'ai perdu mon travail, si vous voulez, Thuès-les-Bains, c'était un centre de rééducation à l'époque. Certains vous connaissez, ils étaient en train de fermer. Donc j'ai dû changer l'endroit où je pourrais travailler. Et je demandais, Seigneur, où tu veux que j'aille, que je travaille? Vers la côte, je ne peux pas, à cause de mon asthme. Je ne connaissais pas trop la région. Dans la Bible, ce n'est pas marqué. Arsène va maintenant par là. Ce n'est pas écrit. Donc, j'ai prié Dieu. Et j'ai eu cette assurance. Donc, j'ai consulté plusieurs cabinets, tout ça. Et j'ai réfléchi, j'ai prié. Et Dieu m'avait parlé. Donc, ça sera ce cabinet-là. Il m'a rassuré, tu vas travailler là. C'était 2009. Je suis toujours. Donc, voici quelques exemplaires bibliques. Luc 4, 1. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le Seigneur Jésus-Christ. Il fut conduit par l'Esprit. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de Char. Acte 16, 6 à 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Pourquoi cet empêchement pour Paul? Parce qu'il fallait annoncer l'Évangile en Macédonie. Dieu avait prévu un autre programme. Donc il a empêché Paul d'aller en Asie. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous, vous-même, et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquisée par son propre sang. On voit bien que le Saint-Esprit, une fois il conduit, une fois il dit et il empêche. Ou une autre fois, il établit les responsables à l'Église. Donc ça c'est la deuxième façon que Dieu nous parle. Même pour moi, au fur et à mesure, j'ai eu des questions au Seigneur. Seigneur, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ce cabinet. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon endroit. Je t'avais obéi à l'époque, mais moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Donc, je redemandais le Seigneur et j'ai entendu sa voix à l'intérieur. Tu restes là où tu es. Moi, j'avais envie de partir. Mais non, tu restes là. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ça, c'est une voix douce à l'intérieur en nous qui nous parle. En douceur, mais très claire. Notre arrivée en France, il y a 10 ans en arrière, que j'ai quitté l'Allemagne à cause de mes problèmes de santé, on avait prié aussi plusieurs années auparavant. Et Dieu a préparé le chemin et dans la Bible non plus, ce n'était pas écrit « Arsène, tu iras en France 2006 ». Donc, il faut prier et écouter le Seigneur et il nous dirigera. Une remarque très importante. Le Saint-Esprit ne se contredit jamais avec la parole du Seigneur. Retenez ça très bien. Maintenant, je vous donne un exemple comment le Saint-Esprit ne guide pas. J'ai connu un homme qui m'a dit, il n'aimait pas rester seul. Le Seigneur, il m'a écouté. Il m'a envoyé cette femme, je l'avais croisée à Canet, et j'ai prié pour ça. N'oubliez pas, cet homme, il avait plusieurs femmes déjà à côté. La Bible dit autre chose. Une femme, un homme. Donc ça ne peut pas être le Saint-Esprit qui a guidé cet homme. On lui avait conseillé de rester seul et de s'approcher vers Dieu et de lui demander lui conseil. Et Dieu va lui répondre. Voilà, il a fait son choix. La Bible parle justement d'un homme et une femme à vie. On ne peut pas changer comme on veut. Matthieu 19, 3 à 6. Revenons au peuple d'Israël dans le désert. Qui a décidé à quel moment il fallait marcher et à quel moment il fallait s'arrêter? Ou autrement dit, qui a dominé sur le rythme dans leur vie, dans leur voyage? Dieu seul. Exode 40. On va lire ce passage. Exode 40, 36 à 38. Aussi longtemps que dure leur marché, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée s'élevait, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle, et des nuits, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc c'est Dieu qui a décidé à quel moment il fallait marcher et à quel moment il fallait s'arrêter. Ça pourrait être même la nuit qu'ils étaient obligés à marcher. Est-ce que Dieu peut te réveiller la nuit et te demander que tu pries pour quelqu'un ou pour quelque chose parce que tu n'avais pas le temps la journée? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Comme on est très active, on n'a pas beaucoup de temps et je vois le Seigneur me réveille des fois la nuit. Il faut que tu pries pour ce, pour ça, pour lui, pour elle, etc. Est-ce que tu permets que Dieu te réveille ou tu râles plutôt parce que tu ne dors pas? Est-ce que tu agis quand il faut? Et est-ce que quand Dieu te demande de ne pas bouger, tu restes où tu es et tu attends jusqu'au il te répond? Vous savez, à l'époque, quand on est parti d'Allemagne, il y a 10 ans en arrière, Sacha, il avait encore l'école, 2 ans devant lui. C'était pas le bon moment pour quitter l'Allemagne et ma famille. Mais je voyais que le Seigneur a tout préparé. J'ai eu le droit d'exercer en France, j'ai eu les papiers très rapidement. Donc c'était clair, vas-y, la porte est ouverte. Donc ça ne correspond pas toujours à notre rythme quand Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Comme vous savez, on a commencé des études bibliques aussi à Prades. Et je me rappelle d'un couple, 5 ans, j'ai jamais parlé du Seigneur à eux. 5 ans, jamais, ni un mot. Et tout à coup, la dame me demande ce que je fais le dimanche. Et j'ai raconté des fois, quand on peut, on part à Perpignan, à l'église ou... Voilà, on lit la Bible, etc. Et déjà à l'époque, j'ai commencé avec un autre couple, les études bibliques. Et cette femme, elle était très intéressée. Et elle a demandé si on ne peut pas faire aussi des études bibliques avec elle et son compagnon. Donc, voyez, c'est le moment du Seigneur qui compte. Moi, je n'ai rien préparé. c'était juste une patiente. Mais Dieu, il destine le temps et le rythme. Pendant 40 ans dans le voyage au désert, donc c'était l'Éternel qui décidait le rythme. Est-ce que vous savez combien d'hommes et femmes et enfants ils étaient? Voilà, 2000,5 à peu près. Je me base sur Exode 38, verset 26. Donc, imaginez 2 millions et demi, femmes, hommes et enfants ont bougé quand la nuée ou la colonne de feu s'est levée et ils se sont mis en route. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi si longtemps, 40 ans, dans le désert? La réponse se trouve dans Josué 5. Josué 5, 6. Josué 5, 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Hébreux 3, 17 à 19. C'est grave. Qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. C'est ça la réponse. À cause de leur désobéissance et leur incrédulité, ils n'ont pas pu entrer dans le pays promis au bon moment. Et pourtant, ils avaient la possibilité. Vous savez à quel moment? Au bout de 2 ans, déjà, ils étaient à la frontière de Kadesh-Barnéa. Et Dieu avait dit, allez-y, possédez le pays, entrez. Il a ordonné à prendre le pays en possession. Deutéronome 1, 19 à 26. Mais les Israélites n'ont pas fait ce que Dieu avait ordonné. Et pour quelle raison? Ils étaient découragés. Après avoir entendu ce que les 10 espions avaient dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne rentrez pas, c'est trop dangereux. Il y a des grandes murailles, des grandes villes. Il y a même des géants. Ils disaient finalement que c'était impossible de conquérir le pays. C'était ça leur rapport. Un peu plus tard, ils ont compris que c'était une erreur de ne pas avoir écouté la voix de l'Éternel et ils se sont repentis. Ensuite, par leur propre initiative, ils ont voulu entrer au pays de Canaan. Ils ont changé d'avis. Mais ils étaient chassés de leur ennemi comme par une guêpe ou une abeille. Deutéronome 1, 44. Et pourquoi cette défaite? Ils étaient obéissantes là. Oui, mais plus tard. Plus tard, ça peut être trop tard. Dieu a dit, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Versets 42 à 43. Eux, ils ont fait quand même. Le calcul est simple. La désobéissance a des conséquences dans nos vies, comme la destruction, la défaite et finalement la mort. Même si on veut obéir plus tard, ça peut être vraiment trop tard. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, Hébreux 3, 7 à 8. Le résultat de la désobéissance pour le peuple d'Israël était une prolongation de leur voyage de 38 ans de plus. Deutéronome 2, 14. Galates 6, 7 nous rappelle, ne vous y trompez pas. ou se moquer pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. La conséquence de leur désobéissance était aussi fatale. Toute l'ancienne génération qui a été libérée par le bras de l'Éternel est morte dans le désert. Imaginez ça. Toute la génération, sauf deux personnes de l'ancienne génération, vous les connaissez? Josué et Caleb. Bravo. C'était eux les deux espions qui avaient encouragé le peuple. Entrez, prenez en possession le pays. L'Éternel est avec nous. Mais le peuple a écouté les 10 autres. Deutéronome 1, 36 à 39, si vous voulez lire. Nombre 14, 24. Josué 14, 6, pour ceux qui veulent lire. Donc, c'était finalement la nouvelle génération qui est entrée dans le pays promis. Et ils avaient peur, justement, pour les enfants qui vont les perdre dans le désert. Mais finalement, c'était eux qui sont rentrés. Un mauvais exemple de désobéissance dans la Bible, c'est aussi Lot, neveu d'Abraham. Genèse 10 à 13. Après quelques querelles entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, Abraham a proposé à Lot, pour éviter plus de problèmes, qu'il choisisse un terrain pour ses bêtes. Il a choisi la plaine du Jourdain, bien arrosée, donc idéale pour ses bêtes, mais une catastrophe pour sa famille. Pourquoi? Cette plaine s'est trouvée tout près de Sodome et Gomorrhe. Au premier regard, il semblait que Lot avait pris une bonne décision. Mais le deuxième regard nous montre que son choix a apporté un désastre pour sa famille. Nous savons que Sodome et Gomorrhe a été lourdement jugé par Dieu et il ne restait que des cendres. Le Seigneur, il a de la patience, mais si l'homme ne se repent pas, Dieu le jugera. Dans sa miséricorde, et je souligne, heureusement, Dieu est miséricorde, sinon personne ne sera là ce matin. Heureusement, le Seigneur a sauvé Lot et ses filles. Malgré son mauvais environnement, Lot était quelqu'un de juste devant Dieu. Il était un enfant des dieux. 2 Pierre 2, 6 à 7. Avant que Dieu détruise ses villes, il avait sauvé Lot et ses filles par 2 anges qui sont venus les chercher. Vous pouvez me demander, et sa femme, où elle est restée? À cause de la désobéissance envers le Seigneur, elle est devenue une statue de sel en regardant en arrière. La femme de Lot aimait la vie en Sodome plus que Dieu et son plan. Apparemment, elle n'a pas été trop gênée pour ces gens qui sont un peu différents, qui voient les choses autrement. Elle n'a pas été trop dérangée par la mauvaise conduite qui régnait sur ces villes. Tandis Lot, oui, il a beaucoup souffert de cette mauvaise conduite de ces personnes-là. 2 Pierre 2, 6 à 8. Regardons les deux filles de Lot. Après avoir quitté Tsoar, une ville qui a été épargnée par le Seigneur de ce jugement, elles sont montées vers les montagnes, donc assez isolées. Mais il y avait un problème, il n'y avait plus d'hommes. Donc, les filles de Lot, elles avaient une idée. Allez, on va faire boire du vin à notre père, on va le saouler pour coucher avec lui, et comme ça, on aura des descendants. Est-ce que vous pouvez dire où elles ont appris ça? À Sodome et Gomorrhe. On voit bien l'influence de Sodome et Gomorrhe. On est tous influés quelque part. Comment s'appelaient les descendants de Lot après? Est-ce que vous savez? Moabite et Amorite. Bravo. Et eux, ils étaient pratiquement tout le temps des ennemis d'Israël. Voyez l'influence et les conséquences d'avoir fait un mauvais choix jusqu'où ça va. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qui a une influence dans ta vie, dans tes pensées, tes actions, tes œuvres? Sont-ils dirigés par tes propres idées ou par quelqu'un d'autre? John Eckle, un des plus grands scientifiques du cerveau, il a écrit d'ailleurs un livre très connu, il compare le cerveau à un clavier ou un ordinateur. Il disait, forcément, il y a quelqu'un qui joue sur ton cerveau, sur le clavier. Il parlait d'un esprit. La Bible nous parle aussi d'un esprit, mais déjà 2000 ans en arrière. Lui, il a eu le prix de Nobel aussi. Mais vous voyez, la Bible, elle est plus récente. 2000 ans en arrière, la Bible nous parle d'un corps, une âme et esprit. Donc, il y a trois possibilités qui peuvent influencer tes pensées. C'est toi, le diable ou Dieu. Le cœur est le siège central de tes pensées et finalement de tes actions. C'est pour cela que la Bible nous avertit dans le Proverbe 4, 23, écoutez bien, garde ton cœur plus que d'autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. 2 Corinthiens 10, 5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si ton cœur est influencé par le Seigneur, donc c'est le Seigneur qui joue le clavier ou dans le cerveau, hein, ta vie sera une réussite parce que le Seigneur te guide. Mais si ta vie est influencée par toi-même et le diable, c'est la mort. Tout dépend de ton choix. Proverbe 1, 24 à 33. À la fin, je vous présente un autre exemple positif, c'est Joseph. Qu'est-ce qu'on lit sur sa vie? Malgré les difficultés qu'il avait et des circonstances compliquées, on peut lire sur lui dans le livre de Genèse 39. Genèse 39, 2 à 4. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien, etc. Dieu était avec Joseph. Il a été guidé par l'Éternel. Même aux prisons, même dans les difficultés, Dieu, il était avec lui. Vous connaissez le nom du Seigneur, Immanuel, dans l'Ancien Testament. Dieu avec nous. C'est beau. C'est ça notre bonheur, d'être guidé par lui, d'être avec lui. Et en Jésus, Dieu est venu vers nous. Il peut habiter en vous. Vous avez entendu plusieurs mauvais et bons exemples entre Josué et Caleb et Joseph. Comment et par qui vous voulez être guidé? Ce choix est votre responsabilité devant Dieu, votre Créateur. Amen.